Vous écoutez RTL.
Nightlist. RTL. Éric Jean-Jean.
La première heure.
Salut à tous et bienvenue dans la première heure de la semaine. Ça fait maintenant une grosse dizaine d'années que sa liste nous est tombée dans le cœur. Dizon Croze traîne son spleen, sa tendresse, ses folies et sa voix sur les routes de France. L'amour, l'absence, l'humour, le sens. Alors que les effluves de son dernier et formidable album Pink Lady continuent d'enchanter les papilles d'une bande FM amoureuse de la fille aux yeux violets. On attaque maintenant une tournée. Le 5 décembre Bordeaux, le 9 à Nantes et puis le 10 elle sera à Paris. Bref, une tournée qui va passer forcément près de chez vous et qui commence ici à RTL. Bonsoir Rose.
Tu m'as ému.
Comment ça va ?
Mais ça va, doucement, comme tout le monde.
Ouais, c'est ça. C'est la première émission que j'enregistre depuis justement les événements du Bataclan. Et je sais qu'on est tous un peu, nous, les gens du métier, un peu sous le choc. C'est difficile de reprendre une promo et une actualité après de tels événements qui ont touché justement notre métier au cœur.
On est un peu au ralenti, en fait. Moi, je mets du temps à réaliser les choses souvent. Ouais. Et j'ai eu du mal à croire que c'était vrai, en fait. Donc j'étais parmi ceux qui n'ont pas du tout réalisé sur le moment. Et en plus j'étais à Metz et à Nancy ce week-end-là. Et en rentrant à Paris, un Paris blême. Et là j'ai pris en pleine poire, en fait, tout ce qui s'est passé.
C'est une salle que tu connaissais bien, le Bataclan, Rose.
J'ai fait 3 soirs d'affilée au Bataclan en 2010, en avril 2010. Ouais. Et ce qui est complètement fou, c'est que j'ai une chanson sur mon 3e album qui s'appelle Paris. Jamais Paris ne me laisse. Et j'ai joué cette chanson pour la première fois. C'était la tournée de mon 2e album, donc c'était pas du tout. J'ai joué pour la première fois en acoustique cette chanson Paris au Bataclan.
Ouais.
Voilà,
ça donc fait quelques ondes supplémentaires.
Ouais. Voilà.
Ouais. Ouais. Alors comment ça se passe d'ailleurs? C'est quoi l'enjeu d'une série de promos, puisqu'on attaque une série de promos? Pour toi, l'enjeu, évidemment, c'est de remplir les salles, mais comment ça se passe? Est-ce que tu te prépares à la manière dont tu vas parler, au message que tu as envie de faire passer? Comment tu penses à ça?
Malheureusement, pas. Je me prépare pas à grand-chose, moi. Je vis vraiment les choses sur le moment. C'est de l'intuition. C'est vraiment tout au feeling et tout à l'intuition. Comme les albums, chaque album, je les ai écrits avec mes tripes. Pour moi, c'est pas une difficulté d'en parler et de raconter l'album, puisque je le vis et je le sens. Et c'était un album qui racontait une fin et un nouveau début et que je suis en train de vivre aujourd'hui. Il parlait un peu avec prémonition de la séparation, de beaucoup de choses, de difficultés dans le couple et qui finalement se sont avérées. Oui. Et moi, je prends ça comme une nouvelle chance de vivre et de rencontrer et d'avancer.
Mais du coup, c'est le côté compliqué de la promo, en fait. Quand tu racontes un truc, justement, qui raconte ta vie, qui raconte tes tripes, à un moment, t'as des mecs comme moi qui sont en train de te faire du divan et de l'analyse de texte.
J'adore ça. Moi, si j'avais plus d'argent, je passerais ma vie en thérapie, de toute façon. Le problème n'est que un problème financier. J'adore les psys, j'adore parler d'abord, j'adore parler. J'aurais rêvé faire de la radio. C'est pas fini, d'ailleurs, j'y pense encore.
Mais pense-y, t'as une jolie voix.
J'adore la radio, je trouve que c'est un média qui plane au-dessus des autres largement, qui a beaucoup moins de bêtises, beaucoup plus de vérité, beaucoup plus de... Disons que l'image pourrit beaucoup de choses, et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas l'image, ça permet aux gens d'être vraiment eux-mêmes.
Et puis tu sais, il y a un autre truc aussi qui est fondamental à la radio, c'est les sondages. On est sondés tous les 3 mois, pas tous les jours. C'est-à-dire que tu fais une émission de télé, dès le lendemain, minute par minute. Par exemple, si Rose chante la liste et que soudain la courbe descend, t'as des chances de pas être invité la prochaine émission. Enfin, non, mais c'est un truc de débile. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors que la radio, on fonctionne avec deux choses qui sont, un, les sondages tous les 3 mois, et puis surtout le fait que c'est déclaratif. C'est-à-dire, quand tu dis que t'écoutes une radio, faut que tu sois fier de dire à quelqu'un que tu connais pas que tu l'écoutes. C'est peut-être ça qui fait la différence.
Oui,
aussi,
c'est vrai.
La presse écrite, ça te penche aussi?
Ça me branche, mais moi j'écris plus des choses en vers. Enfin, la prose, c'est plus compliqué pour moi. Là, on m'a demandé d'écrire un texte aussi en l'honneur des victimes et en leur souvenir, et puis j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai beaucoup de mal à raconter. Après, c'est sur un texte court, sur les posts Facebook, Twitter, je peux vraiment être assez cinglante et avoir 4 lignes.
Hyper, le sens de la formule.
Voilà, le sens de la formule, la punchline, ce genre de choses. Ouais. Mais à long terme, je pense que je m'essouffle un peu. Je suis peut-être pas prête pour écrire des articles ou des bouquins. Ouais. Je suis plus dans la formule, ouais.
Alors on va passer 2 heures ensemble. La première heure, on va discuter ensemble. Puis la deuxième, on écoutera ta programmation. On te laissera partir parce que la semaine est chargée. Et pour cette première heure, j'ai en partie choisi les disques parce que tu verras qu'il y en a que tu connais très bien. Celle-ci, par exemple, tu la connais assez bien. Je compte, Rose, sur RTL.
Je compte les jours, les calories, mes dépenses, mes économies, les paires de bottes. Je compte les clopes, les voyages que je fais pas, les heures loin de toi. Je compte, je compte, je compte encore, juste pour compter, pour le confort, l'argent qu'il resterait. Pour vivre sans compter, je compte à haute voix, je compte tout bas, je compte tout bas. Je compte à rebours, à l'envers mon amour, je compte sur toi, c'est plus fort que moi. Je compte à rebours, à l'envers ton amour, je compte pour toi. Les ennemis que j'ai sur les bras, les pieds de mes vers, les kilos et les guerres que je prends, que je perds, tout ce qui me reste en travers. Je compte pour du beurre, je compte les moutons, les amandons, j'ai oublié le nom. Je compte sans compter, juste pour m'occuper, les tic-tac de l'horloge, le temps que je m'accorde, le temps que je m'accorde.
Sur RTL, je compte cette première heure de la semaine qu'on passe avec toi. J'ai l'impression d'ailleurs sur cet album, on va revenir à la promo, mais j'ai l'impression que sur cet album, tu as chanté un peu différemment, ou la voix a changé, il s'est passé quelque chose ?
La voix change beaucoup, en tout cas moi depuis les 10 ans de parcours, ma voix a énormément changé. Ouais. Je pense que ma voix change avec les événements de ma vie, comme mes coupes de cheveux. Comme, c'est-à-dire je regarde des photos d'il y a 5 ans, 10 ans, même quand, depuis que je suis petite, j'ai changé de tête et de voix peut-être 20 fois. Et vraiment, hein, y a des gens qui me reconnaissent pas avec qui j'étais au collège. Je change vraiment beaucoup, beaucoup en fonction de d'avec qui je vis, d'où je vis. Quand j'étais niçoise ou quand je suis parisienne, ça n'a rien à voir. Selon l'homme avec qui je suis, selon si je suis amoureuse, selon si je le suis pas. Je pense que l'amour, en fait, pour moi, est un petit peu le moteur. Et si je suis pas amoureuse, je pense que je suis sans âme. Ouais, enfin, je ne peux pas écrire, je ne peux pas chanter, tout simplement.
C'est marrant parce qu'il y a plein de chansons qui ont été écrites, je sais pas toi, mais sur la sensation du manque, sur le vide, sur la solitude. Toi, t'as besoin d'être rempli.
J'ai besoin d'être rempli. Et si jamais je ne le suis pas, oui, alors je vais me remplir de mots et je vais essayer quand même de décrire ce vide-là. Mais cet album, disons qu'il il évoquait vraiment une période charnière de ma vie, comme souvent, parce que je change beaucoup de vie aussi. Donc c'est, je pense que mes amis me disent que si on me voit pas pendant 4 jours, on perd le fil de ma vie, et c'est vrai.
T'es dur à suivre.
Ah, je suis dur à suivre. C'est-à-dire que 4 jours après, je vois, on fait une réunion avec mes copines, et puis je dis ah non mais parce que je vous ai pas dit, ah non mais je vous ai pas, ah non mais parce qu'il y a eu ça. C'est hyper épuisant pour moi, mais en même temps, je préfère ça que justement mes amis qui elles me disent bon ben nous comme d'hab, hein, on s'est couché, on a regardé tel film, on a... voilà, moi j'ai une vie très remplie. Ouais.
C'est marrant, t'es une fille de copine, toi. J'imaginais que t'étais une fille d'homme, pas forcément une femme à homme, mais une fille d'homme, c'est-à-dire de copain. Notre relation tous les deux, la relation que t'as, qui est assez parfois virile, parfois direct, parfois franche.
Mais je pense que je suis une fille à copine parce que je suis le mec de la bande. Ouais. Et donc pour elles, c'est un peu leur meilleur. Je suis un peu leur meilleur pote.
Ouais, je comprends.
Et puis mes amis aussi masculins, ils me disent on rigole avec toi.
Oui, t'es une fille garçon en fait. Ouais. C'est la sensation que j'ai eue. Alors c'est ce qui fait en partie et en grande partie ton charme, au-delà d'une féminité pour le coup que tu donnes dans la chanson, dans les sensibilités, mais dans la vraie vie, t'as ce côté, oui, t'as ce côté brut comme ça de fonderie. T'as toujours été comme ça.
J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été un garçon manqué en tout cas. Ouais. Mais en même temps, mais pas un garçon manqué qui prend pas soin d'elle en mode. Ouais. Au contraire, c'est ma féminité. Elle passe aussi par le physique. Je suis quelqu'un qui m'apprête et qui a besoin de plaire énormément. Donc pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis d'hommes, c'est parce que finalement, je considère que un homme et une femme ne peuvent pas être amis à moins de justement être passé une fois à l'acte.
Je comprends vraiment, parce que je considère
qu'il y a toujours une séduction, un jeu. Que si on l'a toujours, et ben on peut pas être vraiment amis. Une fois que ce jeu est passé, on rentre dans une amitié pure. Moi, mon meilleur ami, justement, il s'est rien passé, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il est avec ma meilleure amie aujourd'hui. Et donc ça a tout réglé. J'ai pu enfin avoir un ami mec, c'est mon guitariste Jérôme Placereau, qui est avec ma meilleure amie. Et donc là, ça devient cool.
Au point qu'à un moment, j'ai même cru que vous étiez ensemble. Tu te souviens?
Avec mon guitariste, ouais, mais carrément tout le monde. Ouais. Mais oui, il y a un amour, et puis même avec mes musiciens aujourd'hui sur scène, chacun d'eux. Chacun d'eux, on est hyper hyper tactile. Moi, là, ce 13 novembre, 14 novembre, on était ensemble à Nancy. C'était des câlins. C'était bisounoursland qu'on avait. On a eu besoin de bisounourser. Ouais. Voilà.
On va revenir à la promo et ton rapport à la promo. Pour toi, c'est un passage obligé, c'est un moment marrant. Tu te fais violence pour la promo, Rose?
Non, alors moi j'aime ça. J'ai une espèce de mégalomanie peut-être qui fait que quand on parle de moi, eh ben je suis fière et heureuse. Ouais. Et je me dis que j'ai la chance que les gens s'intéressent à ce que je fais. Parce que s'il n'y avait pas de promo, ça veut dire qu'on n'en aurait rien à faire. J'aime bien aussi qu'on décortique les textes, quand les gens comprennent ce que j'ai voulu dire, ça me plaît. Mais j'aime faire la promo, oui.
S'appelle Jeu de société, qu'on vient d'écouter en extrait, qui fait partie du nouvel album de Rose, Pink Lady, qui est au cœur finalement de ce questionnaire au sujet de la promo. Tu fais allusion à Instagram, aux réseaux sociaux, à la présence. D'ailleurs, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est quoi? C'est une manière d'avoir un lien direct avec les gens?
À la base, oui. Ouais. Après, c'est aussi une manière d'être encore une fois égocentrique et de...
Oui, mais arrête de dire ça, c'est négatif.
Non, mais c'est pas que moi. Mais c'est pas que moi. Je parle des autres. Hein. Là, je parle pas de moi spécialement, mais disons que de s'étaler. D'abord, il y a le voyeurisme déjà de voir la vie des gens et aussi de vouloir que les gens sachent absolument tout ce qu'on fait. Ouais. Évidemment, c'est pas complètement normal. Moi, ça a commencé vraiment.
Attends, ce qui est pas normal, c'est de monter sur une scène devant des gens avec un micro pour chanter.
Oui,
déjà.
aussi.
Pour parler.
Ça va avec. On est d'accord. Mais j'avoue que je prends un malin plaisir parce que justement, quand je fais une phrase d'humour ou une punchline ou une réflexion sur quelque chose et que les gens aiment et que les gens partagent et tout ça, ben ça, on se sent vraiment aimé. Et est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Les gens aiment, par exemple, c'est pareil, les gens ont aimé la liste. Est-ce que les gens m'aiment? Moi, j'en sais rien. Alors, on joue là-dessus beaucoup. On essaie de se faire aimer le plus possible. Ouais.
Est-ce que ta manière de faire de la promo, ta manière face à un micro, a changé en 10 ans de carrière?
Ouais, j'espère, heureusement, oui.
Pourquoi tu t'aimais pas au début?
Non, parce que j'étais quand même beaucoup plus timide et puis un peu plus impressionnée. Je le suis plus. tu m'impressionnes pas du tout, en fait. Non, mais je suis plus du tout impressionnée. Je me suis rendu compte que c'était que de la musique, que de la... Enfin, voilà, qu'il y avait rien de grave dans tout ça et qu'on pouvait parler, qu'on pouvait être soi-même. Et parfois, ça dérape. Quand on... Moi, je suis un peu trop moi-même et je dis beaucoup trop de choses, ouais. ce qui est pas forcément la meilleure façon de faire. Mais je ne changerai pas ça parce que sinon, ça veut dire que je ne serai pas moi en promo, ce qui est ridicule.
Est-ce que la télé, t'es à l'aise ?
On me dit que je suis à l'aise. Ouais. Moi, je suis pas à l'aise parce que j'ai un problème à l'image qui fait que même en concert, je mets du temps à rentrer dans mon concert parce que je mets 1000 ans à m'habiller. J'ai jamais trouvé une tenue de scène. J'ai jamais trouvé une tenue comme ça de promo. Je vais à la télé, j'amène une valise. J'ai un problème à l'image. Voilà. Comment je vais être coiffée? Comment je vais être
habillée?
Ouais. Voilà.
Mais c'est quoi? Tu t'aimes pas?
j'ai du mal à me trouver.
T'es relativement
jolie.
Au courant du fait que t'es une jolie fille?
Relativement, oui.
Très bien,
non, mais j'aimerais me voir avec les yeux des gens qui me parlent et qui me disent ça vraiment. Et du coup, maintenant, je sais.
Tu fasses confiance aussi.
Exactement. Maintenant, j'essaye de plus regarder. Je me dis, bon, là, eux, ils pensent ça. Donc, je vais pas commencer à me poser des milliards de soucis. Mais oui, la télé, c'est plus angoissant parce que les gens voient quelque chose et ils s'arrêtent à ce qu'ils voient aussi.
Ouais,
on n'a pas le temps du tout de parler. De chanter beaucoup, il n'y a pas beaucoup de télé où on chante aujourd'hui.
Ouais, puis les temps de parole aussi, genre 1 minute 30, voilà. Il faut faire passer ton message.
Donc en fait, c'est qu'une question de physique, hein. J'ai l'impression souvent, il faut être joli, il faut être joli, il faut être joli.
Et puis avoir la bonne vanne au bon moment, on regarde des cadmérates qui sont des génies à la télévision.
Mais c'est pas mon métier.
Ouais, je comprends. Est-ce que tu relis les articles de presse qui te concernent ?
Ouais, non, souvent. Et je regarde aussi les télés justement pour ça, pour voir comment j'étais. Non, mais je remettrai plus jamais ce pantalon. Ouais, ce genre de truc, j'ai besoin de voir comment j'étais. Et ça me déprime un peu souvent. Pas la presse, mais les passages télé me dépriment un peu.
Et pour finir, quand il y a une mauvaise critique qui tombe ?
Ça fait mal.
C'est la cata ?
C'est pas la cata, ça fait mal.
Voilà, c'est la première heure de Rose sur RTL. On vient d'écouter Suzanne Vega, Luca. Alors, c'est pas vraiment moi qui ai choisi cette chanson puisqu'elle fait partie de ta liste et je suis pas du tout étonné d'abord par le personnage Suzanne Vega et puis ce que raconte sa chanson sur l'enfance maltraitée.
Oui, exactement. Ouais.
C'est un truc qui te tient particulièrement à cœur. 2010, prête-moi ta gomme. T'es toujours la marraine?
Oui, alors bon, c'est un peu compliqué pour eux, mais en tout cas, je les soutiens toujours.
2012, les voix de l'enfant. 2013, bah, tu chantes Disney, c'est pas rien, à la Fondation L'Abbé Pierre, 2014.
Et là, je m'engage aussi, je commence à participer à des projets avec Action Enfance. Donc, c'est un organisme qui supplée un peu la DAS, qui crée des foyers pour des enfants qui peuvent pas rester dans leur environnement, en fait, dans leur foyer. Et j'ai vu une pub à la télé, tout simplement, qui m'a scotché, un enfant maltraité qui finalement s'enfuit, traverse le mur. Et le slogan, c'était parce que rien n'est joué d'avance. Bon, d'abord, ça me fait une petite référence à Jean-Jacques Goldman. Ouais. Ici, tout est joué d'avance. Moi, dès qu'on touche à Jean-Jacques, je suis là. En ayant été institutrice, j'ai vu qu'un mot, une phrase pouvait tout changer à un enfant. Il suffit de l'accabler pour qu'il soit à vie, recroquevillé sur lui. Et puis, il suffit de le chérir et de lui donner les moyens pour qu'il ait soudain des ailes. Donc, j'ai écrit un mail immédiatement à cette organisation et je leur ai dit, voilà, je veux participer. Donc là, on commence à avancer ensemble.
Combien de temps ça a duré, cette aventure d'institutrice? Je sais que t'en as beaucoup parlé, mais ça a l'air de t'avoir beaucoup marqué. Puis bon, au-delà de Solal, qui est ton petit garçon, bon, je sais que t'es dingue, mais ton application pour l'enfant, ça a duré combien de temps, l'enseignement?
J'ai été institutrice 2 ans. Une classe de CE2, puis une classe de CM1. Ça m'a beaucoup marqué parce que déjà d'une, ça m'a fait comprendre que je ne pouvais pas faire un métier pour lequel j'avais pas de vocation.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il y avait
zéro.
Pas de
non, tout était dur de me lever. C'est pas mes horaires, c'est pas ma vie, c'est pas moi.
T'as dit un truc sur lequel je vais rebondir qui va nous permettre de changer de sujet. T'as dit c'est pas mes horaires. T'es une fille de la nuit.
Je suis quelqu'un qui aime la nuit déjà. Oui, c'est sûr. Et je suis pas d'accord avec les phrases qu'on entend ou même mon père quand j'étais jeune qui me disait c'est pas la nuit que tu vas rencontrer des gens, c'est pas la nuit que tu construis tes relations et tout ça est complètement faux. J'ai rencontré tous mes meilleurs amis, tous les gens que j'aime dans la musique, dans la nuit, dans les concerts, dans des salles de concert aussi, voilà. Donc c'est pour ça que je suis très bouleversée
par ce qui s'est passé.
C'est un peu mon quotidien. Moi, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup au concert encore.
T'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil?
Oui. Ouais. C'est ça le problème.
Donc couche tard, lève tard.
Ben oui, mais sauf que je peux plus me lever tard avec mon fils, donc c'est pour ça que.
Quel âge il a, Solal?
Il a 4 ans et demi.
Ouais. T'es quel genre de maman? J'ai pas osé te poser la question tout à l'heure.
Moi, je suis une maman un peu folle. Il le dit, lui, à chaque fois. Il me dit, maman, t'es toc-toc. Je suis complètement folle. Alors,
folle de lui, d'abord.
Ouais, folle de lui. Et puis, oui, je lui dis tout. J'ai pas de filtre avec les gens, donc j'en ai pas beaucoup avec lui non plus. Ouais. Et puis, quand on s'est séparé avec son papa, on a dit les choses vraiment telles quelles. Et puis, j'ai tout de suite dit que c'était possible qu'il y ait un autre homme, parce qu'il me demande toujours, t'es un prince charmant, et papa, c'est plus ton prince charmant. Enfin, il est très perturbé par ça, parce que ce qui le perturbe, c'est de savoir que je n'ai pas de prince charmant. Ouais. Et c'est tellement mignon que je lui dis, mais moi, t'inquiète pas, je vais en trouver.
C'est vachement bien, déjà, parce qu'il a pas pris sa place, au moins.
Mais c'est pourquoi? C'est parce que dès le début, il venait dans mon lit la nuit, comme il le fait souvent. Ça arrive plein de fois que les enfants viennent, et il me disait, je prends la place de papa. J'ai expliqué que non. Il vient dans mon lit, y a pas de souci. C'est mon fils, et c'est ni la place de papa, ni la sienne, et qu'il va falloir que ça change, évidemment. Et qu'il y aura un jour quelqu'un dans ce lit, on l'espère tous. Et donc, du coup, il est hyper mignon, il me dit, même le papa espère. Tout le monde veut. Mes parents, moi, mon fils, tout le monde est très, très volontaire dans cette histoire. Et donc, mon fils m'a dit l'autre jour, maman, je vais aller dans le magasin des Princes Charmants et je vais t'en trouver un.
Il est trop mignon, cela. La nuit et la création?
Oui, beaucoup. Ça commence souvent le soir. Donc à des heures raisonnables, hein, franchement, ça peut commencer. Soit je travaille avec quelqu'un, par exemple, avec mon ami Lohan ou avec Oden, on travaille, on se voit vers 8-9 heures, et puis ça peut durer très tard. Et soit moi aussi, j'aime beaucoup mon lit. Hein, j'ai un problème avec mon lit. Je fais tout dans mon lit, je peux manger dans mon lit. Ouais.
Nathalie Rince me disait qu'elle écrivait ses romans dans son lit.
Ah ben moi, j'écris tout. J'ai tout écrit. En fait, c'est pour ça que j'ai pris une chambre d'hôtel pour cet album, parce que tout le monde me disait, mais t'as pas besoin d'un studio. J'ai besoin d'un lit. C'est tout.
Tu t'es installé où?
Dans un petit hôtel à 1 heure de Paris, un château, un Sony, ma maison 10 m'avait pris ça pendant 10 jours. Et j'ai fait ça bien, dans les règles de l'art, de Noël, jour de l'an, tout ça là-bas.
Hein. Et oui, c'est là où le barman t'a fait le fameux Pink Lady.
Exactement. Et c'est là que le soir, je m'ennuyais un peu, j'allais au bar et je prenais quelques cocktails et je retournais, mais j'étais sur mon lit. Moi, je laisse la télé allumée aussi ou la radio. Faut que je sois sur un lit.
C'est rigolo. J'avais prévu de passer un disque que je passerai tout à l'heure, mais j'en ai sorti un autre, eu égard à deux de tes réflexions. On écoute et on débrief. C'est Rose, notre invitée pour cette première heure sur RTL. Ça te parle ? On est en 1991, Frédéric Goldman Jones. Et une des plus belles chansons du trio d'ailleurs, elle s'appelle Nuit.
Nuit.
La nuit t'habille dans mes bras. Pas de rumeurs et bruit de soir. Conquérante immobile, reine du sang et vie. Je la suppose, la voilà.
Goldman Frédéric Jones, t'as cité Goldman tout à l'heure, ça m'a un peu étonné d'ailleurs en disant pas touché à Goldman, idole.
Idole, et en plus je pense qu'au début justement, comme on disait tout à l'heure, mes interviews de mes débuts sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'osais pas dire, comme si j'avais honte, Goldman, Cabrel, variété française, comme j'étais très 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 américaine dans,
bah oui,
dans ma façon,
Joplin,
voilà,
etc., dans les références bien sûr.
Et j'avais honte de dire des choses alors qu'en fait j'ai écouté Goldman de 10 à 20 ans, j'ai écouté Cabrel, Berger, voilà, je suis issue de la variété française et Jean-Jacques Goldman, je pense qu'il n'y a pas une seule chanson que je ne connais pas par cœur.
Alors Renaud, ça te parle aussi ou moins?
Renaud, ça me parle, bah, j'aime, j'ai aimé certaines chansons, mais je ne suis pas du tout incollable en Renaud par exemple.
Mais Goldman, tu l'as rencontré ou pas encore? Non.
Non.
C'est pas vrai.
Ouais, et j'allais te demander si tu le connaissais.
Ben oui, j'ai fait plein d'émissions avec lui, dont la dernière ici à RTL, qui doit être une des dernières émissions de variété qu'il ait faite.
Alors,
c'est un type formidable.
Formidable, j'en étais sûr.
Même au-dessus de ce qu'on peut imaginer de lui.
Bon, j'ai eu la chance de rencontrer Francis Cabrel quand même, puisque c'est pour moi
le soldat rose. Ouais.
Voilà, ouais. J'ai adoré ce personnage. Il est au-dessus aussi de ce que j'imagine. Très très drôle.
Ouais. Alors revenons à toi. Et j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle chanson qu'on va écouter dans quelques petites secondes, qui est extrait de l'album Pink Lady et qui est un duo avec alors un autre personnage, pour le coup lui c'est un sacré lascar, ta chanson française. Comment Jean-Louis Murat est arrivé dans ta vie et dans ton album?
C'est une histoire de fou parce que c'était vraiment pas prévu et je ne suis pas du tout une fan de Jean-Louis Murat de la première heure. Je connaissais ses deux derniers albums surtout, en fait j'avais découvert tard. Et puis c'était en travaillant cette chanson avec mon ami Loane qui a composé donc cette chanson, encore une fois la nuit, et aux petites heures du matin, nous nous sommes demandé si cette chanson ne devait pas être un duo. Tu vois qui? Je dis, je sais pas, Marc Lavoine. Dans ma tête, je pensais Marc Lavoine. Ouais. Et soudainement, je fais non, Jean-Louis Murat. Je me dis, mais pourquoi? Je sais pas, Jean-Louis Murat. Et puis le lendemain, j'envoie ce mail. J'ai eu la chance, en fait, que mon fiancé de l'époque travaille avec lui. Il était ingénieur lumière pour lui. Et donc, il le connaissait bien. Il me dit, faut pas du tout le brusquer. C'est pas la maison de disques qui doit l'appeler. Si tu as un truc à lui demander, c'est à lui et à sa femme et c'est tout. Donc, j'ai fait un joli mail en disant, voilà, que cette chanson, elle est née un soir. Voilà, j'ai expliqué un peu le thème. Et puis en fait, j'ai même pas eu besoin trop d'argumenter puisque deux jours après, j'avais cette réponse merveilleuse qui me disait « Chère Rose, cette chanson est magnifique et je n'envisage pas de ne pas la chanter ».
Trop mignon.
Ouais, voilà, il est venu en studio, donc on a chanté ensemble.
Oui, parce que souvent, il faut expliquer quand même que...
Oui, les duos sont pas du tout...
C'est pas toujours fait ensemble, ouais.
Parfois, la personne va en studio, même n'est pas en France, donc elle enregistre de chez elle, oui, c'est très possible. Je l'aurais fait aussi, si on m'avait dit, tu vas pas le voir, j'aurais dit, allez, c'est pas grave. Ouais. Mais là, il est venu, impressionnant, parce que petit bougon, quand même,
Attends, en interview, il est flippant. Hein.
Oui, petit bougon, et puis j'ai senti qu'il fallait pas merder. Et là, il m'a dit avec une grande misogynie que c'était magnifique d'avoir enfin une chanson de fille qui n'était pas niaise. Moi j'étais fière parce que moi en tant que nana mec, ça me va très bien. Il me dit, on dirait que c'est un mec qui l'a écrite. J'ai dit, tant mieux, c'est ça. Il me dit, moi d'être dans le rôle du mec qui se fait quitter parce que l'autre elle fait pas assez de place pour ses douleurs et qu'elle est égoïste et qu'elle veut pas le laisser rentrer dans son monde, il me dit, ça me va très bien aussi d'arriver dans ce rôle là que les gens n'imaginent pas que je puisse vivre, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est lui le macho, c'est lui qui domine.
Il y a un clip qui est en... Alors, je sais pas, il est fait, il est pas fait, il est en préparation. On va parler de Louise Monod, de
Fouet d'Amara.
Ouais, de Fouet d'Amara, oui ou non?
Bah oui, malheureusement, ça a été annulé le week-end du 13 novembre. On n'avait pas les autorisations de tournage, forcément. Maintenant, les plannings de ces deux comédiens sont assez chargés en ce moment parce qu'elle fait une série sur France 2 qui va débuter. Et lui, il est en tournage, pas en France, je crois. Mais les deux sont hyper motivés. Donc là, on repart sur deux dates de tournage, normalement. On attend en validation.
Et alors, c'est quoi? C'est que vous allez raconter l'histoire? Toi, tu vas pas apparaître dans le clip? C'est eux qui
racontent
l'histoire? Non,
j'avais pas envie, parce que l'image, tout ça. Pour une fois que je pouvais m'épargner ça, je me suis un peu épargnée. J'avais envie d'un vrai scénario, un petit court-métrage. Et c'est très allégorique aussi. C'est pas du tout... Il y a du concret, mais il y a aussi de l'allégorie, de la métaphore. C'est pas forcément... une histoire qui se raconte comme ça, ça va être moi je pense que ça va être très 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 beau.
J'ai pas dans les gènes le don de moi-même. Si tant est qu'on m'aime, si tant l'on me gêne, j'ai le blues en peine et j'ai mal en pondère et mes heures. Pas la notion de la dévotion. T'as bien trop à faire avec tes misères. Elle te siffle des airs, des milliers de prières que tu noies dans tes vers. J'ai jamais assez de place.
Elle s'appelle Pour être deux, cette chanson, extrait de l'album Pink Lady, c'est le nouveau avec Jean-Louis Murat, qu'on reconnaît pas d'ailleurs, il chante même un peu plus vite et un peu plus haut que d'habitude. Ça te fait quoi de t'écouter, Rose?
C'est un peu gênant de m'écouter, ouais, c'est un peu gênant.
Gênant?
Oui, avec des gens comme ça, d'écouter ce que je fais. Après, j'ai aucune gêne à chanter devant des gens, mais à écouter mes chansons, moi, passive, d'être spectatrice de moi-même, c'est bizarre, ouais.
Tu te souviens la première fois que tu t'es entendue à la radio?
Ah oui.
Raconte.
C'était avec donc ma meilleure amie Johanna, qui était ma manageuse à l'époque et qui a fait tout ce que je suis aujourd'hui. C'est elle qui a fait découvrir ma chanson. Enfin voilà, c'est une longue histoire entre elle et moi. Et on avait un album donc qui sortait le 24 septembre. Et on est rentré l'été à Nice, parce qu'on est niçoises toutes les deux. Et on était chez elle, elle a une piscine. On était au bord de la piscine avec la radio à fond et on attendait. On changeait les chaînes, on attendait. Et soudainement, on entend le début de la liste. Et puis, je nous revois toutes les deux courir autour de la piscine en hurlant. Mais un truc de malade. Sauf que derrière ça, on n'a pas arrêté de l'entendre. Un truc de fou. C'est-à-dire, on prenait la voiture, on l'entendait. Alors on hurlait de la même façon à chaque fois. Et en plus, c'est très drôle parce que quand tu tombes sur toi, eh ben, tu t'écoutes. C'est ça qui est étrange. C'est que si moi, même maintenant, je tombe sur ma chanson, je vais être super contente et je vais l'écouter. Voilà. Comme si c'était nouveau.
Ouais, je comprends, ouais.
Il y a une excitation qui fait qu'on a envie d'écouter le titre.
Mais alors, est-ce que tu t'écoutes genre, merde, j'aurais pas chanté comme ça?
Ah,
genre, tu vois les défauts, les trucs comme ça, ou tu te laisses emporter par la chanson?
Ah, je me laisse emporter parce que je suis trop heureuse. Voilà. Je suis trop heureuse de me dire que moi, je suis en train de l'écouter là, mais qu'il y a des centaines de milliers de gens qui aussi sont sur cette radio. C'est fou, quoi.
Et faire un tube, c'est un truc énorme, non?
C'est un truc de fou. Bah, quand on sait qu'on peut faire un tube, déjà, le fait que moi, je me dise, qu'on a ce petit jackpot en nous, quelque part. Parce que c'est un jackpot, mais pas financier,
oui,
forcément.
Oui, mais aussi, mais à tous les niveaux.
Mais à tous les niveaux. De se dire qu'on l'a, mais même pas pour soi, d'écrire une chanson pour quelqu'un, de pouvoir avoir l'occasion. J'aurais jamais cru, quand j'étais jeune, qu'on me donnerait l'occasion de pouvoir faire des chansons qui pourraient être des tubes. Et voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, je sais que j'ai encore ça, que quoi qu'il arrive, je peux toujours sortir un jour une chanson. Mais le tube en soi, c'est une telle fulgurance que souvent sur le moment on s'en rend pas compte. C'est aujourd'hui je me rends vraiment compte que la liste en était un, mais sur le moment c'était complètement fou. Oui, c'est vrai. Bah, surtout chez vous, en plus, il est beaucoup passé.
On était fou amoureux de cette chanson.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais que ce morceau soit un tube, parce que Pour être deux.
Combien d'écouter là avec Jean-Louis?
Quand je l'ai écrit, enfin quand on l'a composé, en fait, ça m'était pas arrivé depuis la liste, en fait, de ressentir quelque chose d'aussi fort et de me dire qu'il y a une alchimie entre mon texte et la musique de Loan, une osmose entre la voix de Murat et la mienne. En studio avec Pierre Jaconelli, ça a été d'une évidence. Le morceau, on n'a pas eu une seule difficulté. D'ailleurs, tout l'album, c'est ça qui était fou. D'habitude, on cherche, on se prend la tête, on galère. Il y a des moments de doux, des moments de difficiles en studio.
C'est la première fois avec Jaconelli.
Ouais, et c'est pas la dernière.
C'est alors Jaconelli, grand copain d'Obispo, qui a beaucoup travaillé avec les premiers albums de Zazie, qui est un rocker formidable.
Et puis il a un sens de l'efficacité incroyable. C'est-à-dire que je lui amène une chanson, il la dénature jamais et il l'amène toujours beaucoup, beaucoup plus loin que ce que j'aurais imaginé.
À quoi elle rêvait, la petite Keren, avant de s'appeler Rose, quand elle était petite? Elle rêvait de faire des tubes?
Elle rêvait d'être connue.
C'est mignon.
Mais elle savait pas où, hein, ni comment, ni pourquoi.
Non, mais t'avais ça au fond de toi.
On me demandait ce que je voulais faire. Je disais, je vais être une star. Et j'avais des lunettes Mickey comme ça, mini, avec les petites, comme ça, qui montent vers le haut, genre starlet. Ouais. Et je me mettais des trucs, comme maintenant, j'ai toujours un truc qui tombe sur
l'épaule à l'air.
Toujours une épaule nue.
C'est très joli.
C'est mon truc, je sais pas, depuis tout le temps. Hein. Ma mère me dit, c'est dingue.
Un garçon manqué avec l'épaule à l'air.
Avec l'épaule nue.
Et t'étais quoi? Tu jouais au foot?
Je jouais au foot, je grimpais aux arbres et je chantais. Je chantais Stéphanie de Monaco toute la journée. C'était comme un ouragan toute la journée. Jean-Jacques Goldman, voilà, graver les corses. J'ai une vidéo de moi qui mime tout. Je fais graver les corses. Je mime chaque parole. Ouais, j'ai plein de VHS comme ça.
T'es la grande sœur. Hein.
Je suis celle du milieu. Je suis l'enfant sandwich.
Vous êtes trois. J'ai vu une photo de toi sur les réseaux sociaux avec ta petite sœur qui est sublime. Et t'es quoi, t'as un grand frère?
Un grand frère.
C'était comment la famille, la fratrie, ils font quoi?
On est tous dispatchés dans le monde, donc c'est très difficile. On se retrouve souvent, là on est en famille à Nice, il n'y a pas plus que deux semaines. On se retrouve tous parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants maintenant. Donc moi j'en ai un, ma sœur deux, mon frère trois. Et on chante et on fait la fête. Et c'est mon frère, il habite en Israël, ma sœur à Londres, mes parents à Nice. Et moi à Paris, donc c'est un peu compliqué. Il est agent immobilier. Ma petite sœur, elle est en congé maternité. Et surtout, elle a fait Sciences Po. Enfin, elle est brillante. Ouais. Elle est brillante.
C'est une famille dont le berceau est autour de la Méditerranée. Du côté de ton grand-père maternel, c'est l'Italie.
Ouais.
Grand-père paternel, c'est quoi? C'est l'Algérie.
Algérie,
ouais. C'est un juif pied noir.
Oran, ouais.
Et qui s'est retrouvé comme ça à Nice.
Se retrouve en boîte à Nice, à la Camargue, à 17 ans. Et ils sont ensemble depuis qu'ils ont 17 ans, ils en ont 67, donc je te laisse compter les 50 ans.
C'est juste une sublime histoire d'amour.
50 ans.
Et c'est un truc central chez toi, la famille, quand même.
Ah oui, non, c'est pour ça que moi, je crois vraiment en l'amour et en la famille, parce que je sais que je vais avoir d'autres enfants, et je sais qu'en plus, il ne faut pas que je traîne, et je sais que je veux une famille. Non, mais je sais que je ne veux pas laisser... J'ai pas envie que mon fils soit enfant...
Unique?
Unique, non. Parce que j'ai trop aimé la fratrie. Ma sœur et moi, on est en... Je sais pas, c'est viscéral, quoi. On s'appelle 12 fois par jour. On a un forum sur WhatsApp, là, de famille. Et c'est toute la journée, on s'envoie des photos des petits, des machins. Enfin, on est tellement loin.
Tout le temps, avec toute la famille.
Tout le temps.
C'est rigolo, ça.
Ouais, par exemple, j'envoie une photo de toi à mon père et dire, ouais, je suis avec Eric Jean-Jean, tu vois.
Tu lui enverras toutes mes amitiés.
Faut que tu saches quelque chose, c'est qu'un jour, mon père a appelé Michel Drucker.
Mais non. Raconte.
Il a eu son numéro à Nice parce qu'il y avait eu un mémorium, enfin je sais plus, pour son frère.
Jean.
Ouais. Et mon père qui était au consistoire, enfin voilà, famille juive. Mon père c'est la mère juive, hein, faut le savoir. Il a vu le numéro de Michel Drucker, il a dit bah tiens je vais l'appeler. Et donc il appelle Michel.
Tu étais déjà chanteuse?
Ah oui. Il m'avait déjà reçu sur Vivement Dimanche et tout ça, mais c'était le deuxième album. Et donc j'étais pas du tout en promo et j'étais en train de faire un album, donc aucun rapport. Et donc il appelle Michel pour lui dire oui c'est le papa de Rose, voilà, j'aimerais comprendre pourquoi on la voit plus à la télé.
Et Michel lui a répondu.
Alors Michel lui a répondu, donc ça je l'ai jamais su. Quelques années après, on est devant la télé chez mes parents et puis on voit Olivia Ruiz, mon père me fait ah, tiens on la voit plus. Je dis bah oui elle fait un album, il fait oui je sais, Michel m'a dit. Je dis qui Michel? Il me fait Michel Drucker. J'ai dit quoi? Il me dit, Michel Drucker m'a dit que quand on faisait un album, on n'était pas à la télé. J'ai dit, mais quand il t'a dit ça? Quand? À quel moment? Il me dit, mais quand je l'ai appelé. Bon, et là, il m'a tout avoué. J'étais, mais liquéfiée. Mais
t'as revu Michel depuis?
Mais oui. Et ce qui a été le plus fort là-dedans, c'est quand j'ai raconté tout ça à Michel, j'ai dit, je suis désolée. Et tout. Il me dit, mais attends, ne sois pas désolée, sois fière. Il dit, moi, mon père, il aurait fait ça pour moi. J'aurais été le plus heureux des hommes, quoi. Donc, il a été classe.
Très classe.
T'imagines-le.
Non mais ça m'étonne pas tellement en même temps, hein, mais c'est la classe. Tes parents, ils ont dit quoi quand t'as dit que tu voulais faire ce métier, du coup?
Ah, mon père, forcément, il m'a poussé. Parce que c'est lui le musicien dans la famille. Et c'est lui qui m'a appris la guitare. Et c'est lui qui m'a transmis cette langue-là de la musique. Et finalement, c'est la seule chose qui m'est vraiment transmise. Parce que mes parents sont pas des intellectuels, sont des gens très modestes. Donc, ils nous lèguent pas de choses physiques et réelles. Et en fait, il m'a légué mon métier. Donc, pour lui, il est tellement fier. Et voilà, il sait que c'est grâce à lui. Et c'est grâce à lui. And so it is. Like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you.
can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. The colder water, the blow. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you.
Damien Rice, alors c'est la BO d'un film, Closer, c'est The Blower's Daughter. Pourquoi cette chanson, Rose, d'ailleurs ?
C'est les premières chansons que j'ai chantées dans un bar. En fait, j'étais en couple avec un musicien qui s'appelait Bensé, avec qui je me suis mariée d'ailleurs. Et en fait, lui, il était monté à Paris pour la musique, donc il travaillait que dans la musique. Il faisait beaucoup de choses dans ce milieu-là. Et moi, j'étais donc toujours à ce moment-là dans ma fac de droit. Et puis, on a commencé à faire un petit duo, à monter un répertoire qu'on jouait dans les rues de là où on habitait, c'est rue Saint-André-des-Arts. Mmh. Donc dans le sixième, et on jouait tous les duos, parce qu'il y a beaucoup de duos dans Damien Rice. Ouais. Et puis il y avait Volcano
oui,
aussi.
Oui, bien sûr.
Donc c'est un duo homme-femme. Et voilà, donc c'est les premières chansons que j'ai chantées dans les bars.
Pas mal. Avant qu'on passe à la dernière partie de cette émission qui est un questionnaire, je me suis posé une question pendant cet entretien, pendant l'heure qu'on vient de passer ensemble, au sujet de l'image du film et du cinéma. C'est-à-dire que tu dis que t'as un problème avec ton image, mais moi je trouve que t'es très jolie. Peut-être que tu pourrais faire la comédienne, ou peut-être même écrire des films aussi. Ouais. Est-ce que c'est un exercice qui te tenterait? Parce que tu m'as parlé de court-métrage aussi tout à l'heure. Mmh. J'ai l'impression qu'on flirte un peu autour de ça.
J'aimerais, ouais, je crois que j'aimerais. Pour l'instant, j'ai peur encore. La caméra n'est pas mon amie, voilà. Et j'ai commencé à avoir des amis dans le milieu, et du coup, je me dis pourquoi pas. J'aimerais essayer. Je pense que ça me ferait du bien, en fait. Ça serait encore une autre thérapie qui, en fait, oublier son image et jouer réellement, quoi. Arrêter d'être là à se demander si on est bien, pas bien, qu'est-ce que vont dire les gens, en fait.
Ouais, lâcher prise.
Lâcher prise.
Mais t'arrives à lâcher prise quand même.
Ça m'arrive, mais il me faut quelques doses de.
de coups de rouge.
Boire un petit verre. Ouais,
t'es
ouais.
Toujours sur la défensive.
Je suis toujours dans l'expectative de ce que. Enfin voilà, je me demande toujours ce que les gens pensent, encore. C'est le seul problème, je pense. C'est le problème le plus gros de beaucoup de gens, d'ailleurs, et qui fait que, qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur plein, à plein de niveaux. Et je pense que si on règle ce problème, et c'est pour ça que je me suis inscrite, là, je voudrais commencer des cours de théâtre.
Mais oui, c'est là que je voulais en venir. Ouais,
ouais. J'aimerais bien faire ça. En tout cas, déjà, apprendre.
Dernière partie de l'émission, disais-je, avec un questionnaire. Une série de combien? Combien de clopes par jour?
Si je ne sors pas, je suis à 10 cigarettes.
Je ne poserai pas la question sur les ventes d'alcool par semaine.
Non.
Séance de sport par semaine?
Zéro.
Zéro. Combien de sorties par semaine?
3.
Combien de kilos en trop? Attention à ce que
4.
Tu vas dire. Mais non, arrête.
4 là, en ce moment, 4.
Mais arrête.
Bah si.
Bref. Combien de régimes dans ta vie?
1000. je crois que c'est trop faible.
Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu aimerais rester coincé dans un ascenseur?
Pio Marmaille.
C'est qui?
C'est un acteur le plus beau.
D'accord. Au fait, t'as des phobies, ascenseur, avion, voiture, bateau?
Non. Moi, je crois que mon problème, c'est que j'ai peur de rien.
T'aimes bien être seule?
J'aime être seule, ouais. J'aime être seule physiquement, mais je n'aime pas être seule mentalement. C'est-à-dire que j'aime bien savoir que j'ai quelqu'un dans ma vie.
Rien que le forum familial, moi, je trouve ça génial.
Oui, voilà, on se machin, mais j'ai besoin de solitude, j'ai besoin qu'on me lâche, quoi, souvent.
Ouais. C'est quoi ton plus gros défaut?
Je pense que c'est la fainéantise.
Mais non.
Je pense.
Tu procrastines, ouais. Tu repousses.
Moi, je repousse et j'aime trop. Je me laisse souvent porter par le rien et par Internet. Je peux rester des heures à.
Mais le rien, c'est aussi, manière de t'emplir de quelque chose.
Alors,
pour pouvoir.
Justement, je ne sais plus qui disait ça, mais le problème, ce qui est le plus dur à vivre chez les auteurs, c'est que quand ils écrivent, mais quand ils n'écrivent pas, ils passent leur vie à penser qu'ils doivent écrire. La chambre d'hôtel où j'ai écrit mon album, il ne se passait rien pendant des heures. En vrai, mais soudainement, le rien. J'étais sur Facebook, je regarde la télé, je traîne, je clique, un clic en emmène un autre, et je vais voir des articles, et j'écoute des radios, j'écoute des podcasts, voilà. Je fais ce genre de choses, mais c'est pas inutile parce que j'écoute des super émissions aussi, et que je lis des articles intéressants. Je fais pas que de la bêtise, mais disons que je ne travaille pas.
Mais sauf que ça va t'amener un truc.
Ça va m'amener un truc. Ouais.
Ouais, je comprends ça. Est-ce que tu as des cicatrices?
J'ai une césarienne, oui.
Est-ce que tu es hypochondriaque? On parlait de Michel Drucker.
Je suis une hypochondriaque qui se soigne jamais, ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être malade, mais je vais jamais chez le docteur. Je suis une espèce de schizophrène, mais siamoise. C'est-à-dire que mes deux personnalités sont collées. Je sais pas, soit l'une, soit l'autre, c'est toujours les deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc
oui,
il y a plein
bien.
De choses comme ça qui se collent. Et je suis une anorexie contrariée aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'être anorexique, mais je mange trop. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça.
T'as dit j'ai peur de rien.
Ben, j'ai peur d'avoir peur, donc finalement j'ai peur de rien.
Quelle est la chose que t'as jamais osé faire ou dire?
Que je m'aimais.
Demain, tu deviens dictateur. C'est ma dernière question. T'as tout pouvoir. Quelle est la première loi que tu promulgues?
Oh putain.
Oui, aussi on peut.
Oh purée. Là aussi on peut.
On peut.
Attends, mais c'est ouf. Oh mon dieu.
Je te laisse 2 minutes pour réfléchir,
oh là
le
là.
Temps d'écouter la dernière chanson.
Ouais.
Écoute ça.
I like to do a song of great social and political import.
D'écouter Janis Joplin tous les jours.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Janis Joplin sur RTL. Et Rose.
That's it.
Voilà, Rose d'ailleurs.
J'ai beaucoup travaillé son rire. J'ai le même maintenant, tout le monde me le dit.
Rose d'ailleurs, qui est le nom d'un film avec Bette Midler, et c'est comme ça que t'as pris ton nom de scène.
Exactement.
Bon, alors, t'as pas envie d'être dictateur, c'est ça ?
D'abord, je pense que la première loi, ce serait d'écouter Janis Joplin tous les jours. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde.
Très bien.
Mais non, j'ai pas envie d'être dictateur. Je pense que même en promulguant la plus belle loi, je considère que c'est une énorme difficulté d'être... Je comprends même pas qu'on ait envie d'être président, en fait. Je comprends pas que des gens aient envie...
Le pouvoir, ça t'intéresse pas.
Mon Dieu, quelle horreur. Moi, j'ai pas du tout des envies de pouvoir.
Je suis un peu pareil que toi.
Quelle horreur. Et la responsabilité.
De reconnaissance que de pouvoir. Ouais.
Exactement. Reconnaissance, pas de pouvoir. Ils n'ont pas la reconnaissance, les pauvres, là, les Hollandais. Mmh. Enfin, je veux dire, ils se font toute la journée délatés parce que c'est jamais assez bien. Ouais. Donc, moi, je pourrais jamais. Mais bon, là, il faudrait une loi sur l'amour. Je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas.
Voilà, c'est la fin de cette première heure. Je rappelle que l'album Pink Lady est toujours dans les bacs. Le 5 décembre, Rose est à Bordeaux, le 9 à Nantes, à Paris, le 10 décembre, au Théâtre de l'Alliance Française, première édition du Festival de Musique Francophone, qui va s'appeler Bonsoir Paris. Mm-hmm. De circonstance, le 11 décembre à Tours, puis Rennes, etc., partout en France. On va se quitter là-dessus, puis tout à l'heure, en deuxième heure, c'est moi qui serai seul pour passer ta musique. Je vais te laisser le dernier mot, je vais fermer mon micro, et tu dis ce que tu veux. La seule chose que je te demande, c'est de finir par vous écouter RTL, il est 1h.
Je souhaite la paix dans le monde. Et vous écoutez RTL. Il est 1h.